Aujourd'hui, nous allons prendre un chapitre presque complet, donc dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, avec relire ce récit de la Samaritaine. Petite précision au début du chapitre. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Jésus est venu faire l'œuvre parfaite de baptiser du Saint-Esprit de Dieu, mais il a gardé le symbole initié par Jean de l'engagement des disciples, qui est le baptême d'eau. Et lui, il se charge de nous baptiser du Saint-Esprit pour changer totalement notre vie. Alors, comme il fallait qu'il passe... Alors, Jésus donc quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternel. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu là avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Une femme qui cumule les handicaps spirituels et moraux et que Jésus veut sauver. Car ici, clairement, c'est Jésus qui a l'initiative et ça doit être pour nous une source d'encouragement. Jésus va à la rencontre, en fait, de cette femme. Ce n'est pas une rencontre fortuite, déjà par le fait que Jésus passe volontairement par la Samarie, qui est une enclave quasi étrangère en Israël, que les Juifs évitaient. En général, lorsqu'ils devaient passer d'une région à une autre en Israël, ils contournaient la Samarie pour ne pas rencontrer les Samaritains. Les choses n'ont pas changé depuis le retour de la nation d'Israël en Palestine. Eh bien, la Samarie reste cette partie, cette portion à part avec Gaza, qui est occupée par une nation étrangère à Israël. Alors là, c'était un petit peu différent, puisque l'origine des Samaritains, elle est dans les livres historiques, puisqu'Israël avait été déporté à un moment donné, emmené en exil. Vous savez, les empereurs faisaient des déplacements de population pour pouvoir mieux contrôler, en fait, leur empire. Et une autre tribu avait été amenée sur le territoire d'Israël. Mais en arrivant là, ils adoraient leur propre Dieu, en fait. C'était une tribu païenne. Et comme ils adoraient leur propre Dieu dans la terre d'Israël, ben Dieu leur a envoyé quelques épreuves qui fait qu'ils se sont demandé ce qui se passait. Et on leur a dit, mais non, vous êtes dans le pays d'Israël, vous devez adorer le Dieu d'Israël. Donc on leur a envoyé des enseignants pour adopter le culte d'Israël. Ils l'ont fait en partie, mais ils ont gardé quand même certaines de leurs coutumes. Donc voilà, c'était un peuple mélangé. Ils avaient adopté le culte d'Israël tout en gardant leurs propres pensées et leurs propres pratiques. Et donc ça, en fait, les Juifs ne le supportaient pas parce que ils n'étaient pas purs dans leur vie spirituelle, dans leur vie religieuse. Et il s'était donc créé cet ostracisme, cette séparation entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Eh bien, Jésus va créer la relation. Il va rétablir cette relation. Et de façon légitime, puisque cette femme, en fait, Jésus arrive au puits creusé par Jacob. Et cette femme dit, notre père Jacob. Donc, les Samaritains s'étaient quand même totalement identifiés à l'origine d'Israël. Et ils étaient quand même assimilés aux Juifs. Elle considérait Jacob comme son père. Donc Jésus, lui, est là vraiment également comme un fils de Jacob pour apporter à cette femme la lumière qu'elle n'a pas. Et voilà, Jésus commence par lui demander à boire. Femme, donne-moi à boire. Et cette demande, en fait, montre que sur un plan humain, Jésus dépend de quiconque veut le servir. Il se rend dépendant de quiconque. Il était un homme avec les mêmes besoins que tous les hommes, et dans ses rencontres avec les autres, Jésus a besoin des autres. Il a besoin des autres dans leur humanité. Il n'a pas besoin des autres parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont ceci ou cela, mais parce que ce sont des hommes et des femmes de la même nature que lui. Et sur la face de la terre entière, c'est le même principe. Lorsque Jésus se présente, eh bien, lorsqu'il rencontre quelqu'un, Jésus a besoin de lui. Est-ce que vous comprenez cela déjà pour vous-même? Est-ce que vous comprenez que sur un plan humain, Jésus a besoin de vous? C'est rendu dépendant de votre aide. Et à chaque fois que nous aussi, nous allons en son nom vers les âmes que Dieu cherche, nous bénéficions de leur humanité. Ils ont reçu de Dieu un cœur, un corps, une intelligence, des capacités qu'ils peuvent mettre à notre service, dont nous avons besoin. Nous bénéficions de leur humanité et nous pouvons concrètement aussi avoir besoin d'eux au-delà de ce qui nous sépare. Nous allons au-devant d'un musulman pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais ce musulman, il est un homme comme nous et il peut aussi nous aider dans un besoin matériel, dans un besoin concret que nous avons. Au niveau humain, Jésus montre, en demandant à cette femme à boire, Jésus montre que elle peut agir, elle peut lui donner quelque chose, elle peut faire quelque chose pour lui. Mais de là, bien sûr, Jésus démontre que l'inverse est bien plus vrai. Celui qui est séparé de Dieu a un besoin bien plus grand que Jésus est venu combler. Et il est le seul à pouvoir répondre à ce besoin-là. Et de là, Jésus va franchir les obstacles qui empêchent l'être humain d'être en relation avec le Père de toute vie. Puisque Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau de la vie. Et il amène donc cette femme à faire l'aveu de son besoin, à avouer qu'elle a besoin de la vie. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Alors bien sûr, elle confond, mais au fond, elle exprime vraiment le besoin qui est dans le cœur de chaque être humain de connaître la source de la vie. Et Jésus est là pour lui apporter cette source. Il va, à travers cet aveu de la femme, pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, à travers cet aveu de la femme, il va pouvoir donc lever le voile sur l'obstacle moral qui empêche cette femme de bénéficier de la vraie vie, puisque il lui lance donc cette invective: appelle ton mari, amène-moi ton mari. Et bien sûr que il connaît la réponse, et voilà la situation de cette femme qui est dévoilée. Elle le dit plus tard, hein, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc elle avoue que sa situation effectivement n'était pas brillante sur le plan social et conjugal. Il y a vraiment un obstacle dans sa vie qui fait qu'elle ne peut pas saisir la vraie vie de Dieu. Et cette situation morale, cette mauvaise situation morale qui a été mise en évidence par Jésus, permet à cette femme elle-même de remonter plus haut à la situation spirituelle des peuples. Puisque, Seigneur, je vois que tu es prophète, elle ne cherche pas à se défendre de ce que Jésus lui a révélé, elle ne cherche pas d'excuses. Simplement, elle reconnaît que, voilà, Jésus est prophète et il a compris sa véritable situation. Mais de là, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, qui a raison? Qui a raison sur le plan religieux? Qui a raison sur le plan spirituel? Elle remonte à une question encore plus fondamentale que celle de la vie morale. Eh bien, Jésus va répondre en deux temps. Premièrement, il va faire la démonstration donc que ce n'est pas le « où adorer » qui compte d'abord, mais « qui adorer ». Vous, nos pères, donc, parce qu'elle dit « nos pères ont adoré sur cette montagne ». Et Jésus répond « vous, vous adorez donc... ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Donc il faut d'abord savoir qui adorer. Le Père de toute création, le Père de toute vie, le Père qui nous aime et qui nous sauve. Et là, clairement, dans ce domaine, le juif a l'avantage parce qu'il a une révélation et à travers les prophètes, les écritures, la loi, le culte, il a été instruit concernant le Créateur, concernant le Père. Le salut, dit Jésus, c'est une parole simple mais fondamentale, le salut vient des Juifs. Donc le Dieu véritable, tu ne vas pas le trouver ailleurs que dans l'enseignement d'Israël. Ça, c'est le premier aspect de la réponse de Jésus. Mais le deuxième aspect, c'est que pour tous, le Père crée une nouvelle relation qui est donc une relation intime, profonde, personnel, qui ne dépend pas d'un lieu ou d'une circonstance, mais d'un engagement l'un envers l'autre. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce ne sera, dit Jésus aussi, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est quand même fort comme réponse. Il s'agit d'adorer le Dieu d'Israël qui s'est révélé à travers la loi et dans le culte, et vraiment à Jérusalem. Et pourtant, Jésus dit, ce ne sera plus à Jérusalem que vous adorerez le Père. il faudra l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu attend des enfants, des hommes et des femmes qui se consacrent à lui, qui répondent à sa présence et qui chaque jour seront en communion avec lui par l'esprit et la parole de vérité. Voilà ce que Dieu et Jésus est venu apporter. Et en fait, cette femme se rappelle que l'être humain ne peut pas entrer seul par lui-même dans cette nouvelle relation avec Dieu. Le chemin lui est barré et il a besoin donc de celui qui a été préparé pour cela, le Messie, dont parlaient les prophètes anciennement. Personne ne peut entrer dans la vraie relation avec le Père sans l'aide de celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus n'a plus qu'à justement se présenter à elle comme étant celui par qui l'être humain va pouvoir trouver la véritable relation avec son Père céleste. Donc Jésus amène cette femme à la source d'eau vive, qui est la connaissance personnelle de notre Créateur et une relation fondée sur l'amour et le pardon qu'il nous a accordé et l'esprit qu'il nous donne. Alors cette femme, eh bien, cette femme est convaincue, bien sûr, par la démonstration que vient lui faire Jésus et qui concerne son attente profonde, qui concerne sa vie pas superficielle, pas extérieure, mais vraiment sa vie intérieure. Et elle devient une messagère convaincante, alors que donc elle va auprès de ses compatriotes, qu'elle n'hésite pas à aller leur dire, en fait, cette révélation que Jésus vient de leur faire, alors que, d'après, bien sûr, beaucoup de commentateurs, c'était la sixième heure qu'elle est venue puiser de l'eau, et que cette sixième heure, c'est midi, et que certainement qu'elle venait, en fait, à cette heure-là au puits pour ne pas être en contact avec les autres personnes, pour être seule, parce que sa vie n'était pas brillante et que certainement elle n'était pas en très bonne relation avec même les gens du village. Eh bien, cette femme qui n'est pas en bonne relation avec les gens du village, elle devient une témoin zélée auprès de tous les gens de ce village. Elle n'hésite pas à reconnaître auprès d'eux ses anciennes fautes, hein, puisque tout ce que j'ai fait, et elle les convainc de venir chercher donc eux-mêmes auprès de Jésus la réponse à leur attente. Alors il y a cette petite précision qui est donnée, qui est quand même particulièrement parlante, c'est que alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Voilà, la femme n'a même plus besoin de cette eau d'aujourd'hui, de qu'elle est venue chercher au puits. Elle a tellement trouvé mieux, elle a tellement été inondée de la révélation de Dieu en Jésus-Christ qu'elle en oublie même sa cruche d'eau. Et c'est vraiment cela aussi qui peut se passer dans nos vies lorsque Jésus vient vraiment combler nos cœurs, toutes les autres choses s'effacent. Et de la même façon pour Jésus, son besoin d'eau, lui aussi, il est passé. Et puis même son besoin de nourriture, puisqu'il peut dire à ses disciples, hein, qui veulent lui donner à manger et auxquels il refuse, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On dit parfois qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Eh bien là, en fait, dans la relation entre Jésus et cette femme, c'est vraiment une nourriture spirituelle qui vient se substituer, qui vient remplacer, en fait, tous les besoins humains et qui se suffit à elle-même. Mais bien sûr, ces hommes disent ensuite à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ils ont été mis eux-mêmes en relation avec Jésus. Et là, il a pu apporter, bien sûr, la parole directement à chacun. Et c'est chacun qui entre maintenant dans cette relation nouvelle. Nous ne pouvons pas nous contenter du témoignage des autres. Le témoignage des autres est destiné à nous amener à Jésus. Et c'est la relation qui est créée personnellement avec Jésus-Christ qui va nous convaincre et changer nos vies. Personne ne peut être changé par le témoignage de quelqu'un d'autre. Nous devons faire notre propre expérience avec le Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, notre vie aussi sera totalement renouvelée. Alors les disciples, eux, de leur côté, doivent apprendre des choses qu'ils ignoraient concernant le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, se disposer, par Jésus leur demande de se disposer à aller justement récolter la moisson que lui-même a préparée. Les, voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et ils sont appelés à être des ouvriers qui vont simplement récolter ce que Jésus a préparé pour Dieu, comme moisson pour Dieu. Et là, justement, je voudrais vraiment insister sur ce point que notre salut vient de l'initiative de Dieu en Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait l'œuvre du salut, c'est Dieu qui a désiré nous sauver. Et aujourd'hui, même lorsque nous sommes sauvés, c'est Dieu qui veut continuer son œuvre de grâce dans nos vies. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et parfois, nous sommes dans la prière à vouloir, on peut dire, obtenir ou réclamer des choses à Dieu. Mais ce n'est pas de cette manière, en fait, dont il faut être en relation avec Dieu. Il faut surtout, on peut dire, réclamer de nos cœurs qu'ils acceptent le don que Dieu a préparé pour eux, les bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Le Seigneur est là qui veut nous bénir, qui veut faire son œuvre de grâce. Et ce qu'il demande de notre cœur, c'est la foi, et que nous travaillons, que nous désirions vraiment être capables de recevoir ce que lui veut nous donner. Et lorsque nous ouvrons vraiment nos cœurs, nos pensées à la grâce et à la présence de Dieu qui est venu vers nous, qui nous a sauvés en Jésus-Christ, qui a donné son Fils pour nous, à ce moment-là, nous pouvons recevoir et nos prières sont efficaces parce qu'elles ne dépendent pas de notre volonté à nous de convaincre Dieu, mais plutôt de nous convaincre nous-mêmes d'accepter ce que Dieu a voulu et veut encore pour nous. Jésus prend l'initiative, Jésus vient à notre rencontre, et lorsque nous allons donc nous-mêmes à la rencontre des autres, ça doit être véritablement comme des instruments de la grâce de Dieu, comme étant à la disposition du Seigneur pour révéler ce que lui a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc le Seigneur vous encourage et vous bénisse. Et s'il faut passer pour recevoir le salut par le dévoilement de notre ancienne mauvaise vie, ou même encore présente mauvaise vie, et alors, qu'importe, qu'est-ce que ça peut faire si les uns ou les autres découvrent que nous ne sommes pas la personne droite, honnête, ou que nous voudrions être, hein? Du moment que la révélation de notre péché est faite dans et sous le couvert de la grâce de Dieu, alors tout peut être reconnu, tout peut être avoué, et le Seigneur peut restaurer et peut donner une vie nouvelle par sa grâce. Amen.